VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h à Abidjan, près d'un mois après le crash de l'Airbus A320 d'Égypte. Des morceaux de la carlingue ont été localisés au fond de la Méditerranée, mais la priorité reste de repêcher les boîtes noires pour comprendre les causes de cette catastrophe toujours inexpliquée. Ces nouveaux débris ont été photographiés par un robot sous-marin qui explore la zone au large des côtes égyptiennes où s'est abîmé l'avion reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord dans la nuit du 18 au 19 mai. Une bouffée d'oxygène pour les transports urbains en Côte d'Ivoire. La société de transport abidjanais, la SOTRA, a signé un nouvel accord avec la société indienne Tata pour la fourniture de 500 bus, a dit à VOA Afrique le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Dans le secteur privé, un accord a également été signé entre le CPC et la Confédération des industriels indiens afin de faire le pont entre les entreprises ivoiriennes et indiennes. Esmel Emmanuel Lessis, directeur général du Centre de promotion des investissements de la Côte d'Ivoire, fait le tour des retombées de la visite du président indien dans son pays.
Cette visite est la première du genre d'un président indien dans notre pays. Et c'est tout à fait le signe de l'excellence des relations qui entre les deux pays, mais surtout, c'est le signe de la décision ou de l'option prise par les deux chefs d'État de pouvoir renforcer davantage cette coopération sur le plan économique.
Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est accru de 40% entre cette période, donc 2014 et 2015. Comment explique-t-on cela ?
Écoutez, il faut savoir que l'Inde est beaucoup acheteur de matières premières chez nous, principalement l'anarcade. L'anarcade, ce pays se plaçait comme premier producteur mondial jusqu'à encore l'année dernière. Et donc, toute la production ivoirienne à 80% est achetée par ce pays. Notre production ayant connu une progression très forte, nous sommes maintenant à près de 800 000 tonnes. Premier producteur depuis cette année, vous comprendrez donc que les échanges commerciaux ont connu cette croissance due à cette embellie au niveau de ce produit principalement. Évidemment, il y a d'autres produits tels que le cacao qui est concerné, les produits pétroliers, et puis nous, dans notre sens, on achète beaucoup de produits pharmaceutiques, la viande, des véhicules. Vous savez que nous avons signé un contrat avec Tata, qui est présent ici en Côte d'Ivoire et qui travaille beaucoup avec la SOTRA. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, aujourd'hui, il y a eu une signature d'un mémorandum entre la SOTRA et Tata pour la fourniture de 500 bus dans les mois qui viennent. Donc, ça va encore augmenter davantage, ce parc qui est déjà existant.
Vous pouvez nous citer d'autres signatures importantes éventuellement qui ont été effectuées lors de sa visite ?
Écoutez, il y a la signature qui a été faite ce matin, je parle principalement du secteur privé, qui a été signée entre le CPC et le CII, qui est la Confédération des industriels donc indiens, qui va permettre de pouvoir créer cette plateforme justement d'échange, parce que comprenez que la Côte d'Ivoire a pris la résolution pour 2016-2020 d'aller à l'industrialisation de son économie. Donc, qui parle d'industrialisation, parle de recherche de compétences à ce niveau, et donc c'est en cela que cette plateforme que nous avons signée avec cette confédération va nous permettre d'établir le pont entre des hommes d'affaires ivoiriens, des potentiels investisseurs ivoiriens, et puis know-how indien dans ce domaine qui a très, très diversifié son industrie de la transformation agricole à la transformation métallique et mécanique et tout ce qui est, industrie technologique. Donc, cette plateforme que nous avons signée va aider, à faire ce pont technologique entre ces deux pays.
Esmel Emmanuel Essis, le directeur général du CPC, joint à Abidjan par Nathalie Barge. Rendez-vous sur voafrique.com pour l'interview intégrale. Les cadavres de 34 migrants, dont 20 enfants, ont été retrouvés la semaine dernière dans le désert nigérien alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère nigérien de l'Intérieur. Seuls deux corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans, précise le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le Bénin renforce son dispositif de sécurité après avoir reçu une nouvelle alerte de menace terroriste. Il n'y a pas de précision sur la nature de la menace. Le Bénin a proposé d'apporter son aide à la force multinationale pour combattre Boko Haram au Nigeria. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont pris des mesures de sécurité renforcées après des attentats à Ouagadougou en janvier qui avaient fait 30 morts, puis 19 morts en mars à Grand Bassam. Ces attaques ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'abbé Apollinaire Malumalu n'est pas décédé, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques jours. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC va mieux et son état de santé se stabilise, a déclaré hier à Kinshasa Corneille Nangaa. Le président de la CENI revient des États-Unis où il est allé rendre visite à son prédécesseur. On écoute Corneille Nangaa au micro de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
C'est faisant suite à la nouvelle qui s'était répandue il y a 10 jours, faisant état du décès de l'abbé Apollinaire, l'ancien président de la CENI, que nous avons conduit une délégation composée entre autres de l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni, du docteur Soulou, du président de la CIME, ainsi que d'autres, pour s'enquérir de l'état de santé de l'abbé Apollinaire. Il s'est fait qu'il est entré depuis 10 jours à un état critique. Sa santé s'est nettement dégradée, mais il est en vie. Et nous l'avons vu, il nous a reconnus. En ces jours, son état est stable. Il est lucide et coopérant. Donc c'est pour dire que nous suivons cette question de très près, conformément au règlement intérieur de la CENI.
Jeu de ping-pong entre le Rwanda et le Burundi au sujet des ressortissants de chaque pays, chassés récemment à la suite de frictions diplomatiques entre les deux pays. La dernière vague de Burundais refoulés par Kigali se trouve au camp de réfugiés de Kirundo au nord du Burundi. Jean Bosco Ndaruzi Rizé, l'un des reporters des correspondants de la VOA, témoigne.
Certains disent avoir quitté le Burundi il y a plus de 10 ans pour chercher comment améliorer leur vie au Rwanda. Expulsés par surprise, ils se lamentent de ne pas avoir eu la permission de récupérer leurs biens, notamment leur production agricole. Au moment où ils sont arrivés au Burundi, ils ont été bien accueillis d'abord par l'administration qui disait que leur expulsion est une marque que le Burundi a un mauvais voisin.
Jean Bosco Ndarurunze. Barack Obama et son vice-président Joe Biden se rendent à Orlando aujourd'hui pour témoigner leur soutien aux familles des victimes de la tuerie de dimanche et rencontrer ceux qui ont agi héroïquement et rencontrer aussi les médecins et autres. 4 jours après le massacre qui a fait 49 morts et 53 blessés, le président américain arrive au chevet donc d'une ville qui ne fait qu'entamer son deuil. Le chef de l'exécutif américain veut rencontrer des familles de victimes pour leur présenter ses condoléances et les réconforter selon son porte-parole. Le président prévoit donc également de s'entretenir avec des membres des équipes d'urgence, dont des médecins, des infirmiers ou ambulanciers qui ont agi héroïquement et courageusement sans se préoccuper parfois de leur propre sécurité, selon la Maison-Blanche. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé ce jeudi que la Russie cherchait à constituer une zone d'influence par des moyens militaires dans une interview au quotidien allemand Bild, inquiet de la crise ukrainienne et du potentiel militaire grandissant de la Russie à leurs frontières. Les anciens pays du bloc soviétique qui ont rejoint l'OTAN après la fin de la guerre froide réclament que l'Alliance renforce encore davantage sa présence militaire sur leur territoire afin de décourager toute velléité d'attaque.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une nouvelle trêve des combats de 48 heures est entrée en vigueur aujourd'hui dans la métropole syrienne d'Alep, dans un climat de profond scepticisme en l'absence de toute avancée des négociations de paix. Pour les experts, cette trêve ne devrait pas plus tenir que les précédentes et les violences se poursuivront tant qu'il n'y a pas d'effort véritable pour relancer le processus de paix actuellement au point mort. Par ailleurs, le groupe djihadiste État islamique continue à commettre un génocide contre les Yazidis, une minorité kurdophone présente en Irak et en Syrie, a averti aujourd'hui la commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en Syrie. Un désastre humanitaire à Fallujah, cible d'une offensive de l'armée irakienne pour déloger le groupe État islamique. C'est le cri d'alarme d'une ONG norvégienne. Au moins 48 000 personnes ont fui leurs habitations depuis le début de l'offensive contre Fallujah le 23 mai, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Et puis, on termine par du football, Euro 2016. Dans le groupe B aujourd'hui, l'Angleterre croise le fer avec le Pays de Galles, leader du groupe avec 3 points. Et dans le groupe C, duel des leaders, Allemagne-Pologne, 3 points chacune, tandis que l'Ukraine et l'Irlande tenteront de se départager, ayant 0 point chacune. Ici aux États-Unis, la 100e édition de la Copa América reprend ses droits avec le premier quart de finale, mettant aux prises les États-Unis États-Unis et l'Équateur. Nous aurons droit vendredi à Pérou, Colombie, puis Argentine, Venezuela, samedi et dimanche, le Mexique et le Chili fermeront la marche avec les demi-finales de la Copa América. Jean-Roger Billon, dans 50 minutes, un nouveau point de l'actualité avec Henri Francis. Pour ma part, bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.